Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
La chronique argent.
Une vision des finances pas comme les autres.
On prend toujours 20 trains pour quelque part.
Yves, là, tu fais plaisir à ma blonde. Là. Tu sais, quand on est allé en France, la dernière fois, on est allé sur la tombe de Gilbert Bécaud, qui était l'idole de jeunesse de ma blonde. Alors, bien sûr, ça fait énormément jaser le REM, les trains en Inde, le béton aux États-Unis, les panneaux de verre aux Émirats Arabes Unis. Tant, ouais.
Écoute, c'est pour ça que je t'ai fait jouer cette chanson-là, parce qu'on parle du train bleu, mais... Le train est bleu, il est de moins en moins bleu. Les panneaux de verre vont être de moins en moins bleus. En fait, la réalité, c'est que là, hier, tu as vu la nouvelle, là, on avait sorti ça. Là, c'est,
oui.
Écoute, on a donné le contrat des panneaux de verre pour les 26 stations du REM à une entreprise d'Abu Dhabi, alors qu'on a une entreprise à Rivière-du-Loup qui s'appelle Prelco, qui a d'expérience depuis 1954, qui a fait les panneaux de verre pour le One Trade Center, qui est le fournisseur principal de Bombardier, et on va choisir un plus bas soumissionnaire d'Abu Dhabi.
Mais le plus bas soumissionnaire, là, c'est certain, si tu fais affaire, là, si tu es en compétition avec des pays qui exploitent leurs travailleurs, qui ne respectent pas les normes environnementales, qui payent des pinottes, ben c'est certain que c'est eux autres qui vont toujours emporter les contrats, parce qu'eux autres, les plus bas salaires, ben c'est eux autres qui payent.
Toute la classe politique là a rabroué la caisse. Même le bureau du premier ministre qui a dit des entreprises du Québec qui ont l'expertise, ça n'a pas de bon sens qu'on leur donne pas ce contrat-là. Un autre exemple concret d'une mauvaise entente qui avait été négociée, il faut que dans ces contrats-là, on ait une clause Québec. Autrement dit, quand tu as des contrats publics, quand tu as l'argent public, il faut être capable de dire, il faut d'abord évaluer, on a-tu des fournisseurs, des entreprises du Québec qui peuvent livrer la marchandise? S'il n'y en a pas, on ira à l'international. Mais faisons au moins l'effort de vérifier si on a cette compétence, ce savoir-faire-là au Québec.
Puis les gens vont dire, ouais, mais pourquoi on paierait plus cher? Ben, regarde, c'est parce que c'est une entreprise d'ici qui va embaucher des Québécois, qui vont payer de l'impôt, qui vont consommer. Ça va aider à faire marcher l'économie.
Hey, on a fait, on était voir hier les salaires qui étaient pratiqués par la compagnie d'Abu Dhabi.
Oh! Okay. Ouais.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'un ingénieur là-bas, là, il gagne 43 000 $ par année. Un ingénieur qui travaille ici, dans le même contexte, gagne 104 000 $
Ben, donc, voilà.
Donc, c'est sûr qu'il va être payé, ça va coûter meilleur marché d'acheter des produits qui sont produits à plus bas échelle.
Ça, c'est l'ingénieur. Fait que t'imagines
j'en ai d'autres.
Le petit salarié. Là.
Regarde, un ingénieur électrique là-bas gagne 23 000 $ par année. Un directeur de l'assurance qualité, 44 000. Écoute, c'est probablement le double et le triple au Québec. Évidemment, quelqu'un qui gagne 104 000, un ingénieur au Québec, il paye des impôts au Québec.
À la maison, le googler, là. Allez sur Google, googler exploitation des travailleurs Émirats Arabes Unis. Écoute, là, il y a des infrastructures qui ont été montées à Dubaï, puis quasiment par des esclaves. Mm-hmm. Quasiment par des travailleurs qui étaient traités comme des esclaves. À un moment donné, je pense que la Caisse de dépôt aussi, doivent penser un peu de façon éthique. Mais en tout cas, bref.
La proposition du PQ est quand même intéressante, là, parce que la Caisse dit qu'il donne des contrats locaux à 86%, mais là, il faudrait voir dans ces contrats locaux-là combien de ça sont des sous-traitants à l'étranger. Mmh. Puis il n'y a pas de ventilation qui a été faite de ça, mais moi, je pense que c'est une bonne solution.
Ben, c'est bon, ça. C'est un texte qui a fait bouger les choses, puis ça vient de ta gang, de ton équipe de journalistes.
Oui, il faut faire bouger les choses.
Bravo. La paie des patrons d'Investissement Québec bondit.
Écoute, la paie des patrons a bondi de 21%. Donc, la rémunération totale des 5 plus hauts dirigeants d'Investissement Québec a bondi de 21% l'année dernière. Donc, le rapport annuel est sorti, là. Donc, le PDG Guy Leblanc a augmenté de 27% en pleine pandémie son salaire. Celle qui est responsable des placements privés, Bichat Nigo, elle, 757 000 en raison d'une prime de 180 000 $ Évidemment, la Société d'État Investissement Québec dit que c'est tout à fait normal parce qu'ils ont fait un rendement, tiens-toi bien, là, ont enregistré un rendement de 25 % plus et des profits nets records de presque 992 millions de dollars l'année passée, alors qu'il y avait eu des pertes de 180 millions. Évidemment, je te rappelle qu'Investissement Québec, ils ont des fonds propres d'argent, ils investissent à la fois à la bourse, puis investissent dans des entreprises du Québec. Et là, évidemment, n'importe qui investit dans la bourse depuis un an et demi, c'est sûr qu'il va avoir des bons rendements.
Ben oui.
Écoute, ils ont profité de la vague de boursières. Et ce qui est plus intéressant, c'est de voir les autres investissements qu'ils font dans ce qu'on appelle des canards boiteux du Québec, où on a peut-être pris des initiatives des fois.
Des risques un peu trop gros.
Trop gros, et pour lesquels...
On s'est planté. Mais ils vont te dire, c'est dans leur contrat, si on veut attirer des bons investisseurs, Investissement Québec, faut payer la même chose que dans le secteur privé, si on veut les attirer, fait qu'on met des trucs comme ça, des clauses dans leur contrat qui font qu'ils ont des augmentations de salaire selon la performance, blablabla.
La question qui revient tout le temps, là, c'est est-ce qu'on a besoin d'une banque du Québec comme alors qu'il y a tellement de capital de risque, Richard. Écoute, t'as la Caisse de dépôt, t'as le Fonds de solidarité, t'as plein de sociétés de capital de risque, t'as les banques qui en font. Écoute, est-ce qu'on a besoin d'un organisme comme ça qui emploie quand même 1000 personnes, là?
Mais le gouvernement Legault mise beaucoup sur Investissement Québec. Hein.
Ben
vraiment.
Oui. Mais c'est parce que c'est devenu presque un bras banquier politique pour faire des prêts pardonnables. Investir dans des secteurs, tu sais, comme McInnes et d'autres secteurs qui sont essentiellement pour créer peut-être des jobs en région puis qu'on n'a pas de besoin.
Mais oui,
je pense que la question se pose là, d'Investissement Québec, là, son rôle. Je pense qu'on n'a pas fini de parler d'investissement.
On vient de parler à Sylvain Charlebois, oui. les l'UPA et les éleveurs pris en cage par les conflits de travail.
Ah, et évidemment, la sortie de l'UPA hier, là, c'est quand même intéressant la citation de Marcel Groslot. Un poulet, c'est quand même un repas pour quatre personnes, donc 400 000 poulets euthanasiés, c'est 1,6 million de repas perdus. Donc, c'est quand même une sortie incroyable.
Ça, c'est du gaspillage. Moi, je déteste gaspiller la bouffe.
Ça n'a pas de bon sens.
Quand on fait un souper, puis en reste trop, là, je déteste gaspiller la bouffe. Mais là, 1 400 000 poulets.
Mais ce qui est fascinant, c'est que cette grève-là soulève, évidemment, toute l'idée de la transformation alimentaire, parce qu'il y a la grève du poulet, mais je te rappellerai qu'il y a une grève encore à Holy-Mel pour le porc. Moi, je pense à ma fille qui est végétarienne. Là. Je pense pas que je vais la gagner à revenir au poulet ou au porc avec cette grève-là, parce que elle voit très bien que c'est une industrie qui doit se réinventer. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que si Exceldor puis Holy-Mel peuvent pas produire pour les détaillants puis les épiceries québécoises, là, qui va prendre la relève? Et là, il y a quand même des inquiétudes. T'as évidemment des grosses compagnies comme Maple Leaf dans le reste du Canada. T'as Sofina qui pourrait faire et remplacer Holy-Mel et Exceldor. Et une fois que tu remplaces ton fournisseur, là, ça veut donc dire qu'eux vont peut-être faire affaire avec des producteurs de poulet ailleurs qu'au Québec.
Ah ouais.
Donc ça va être à surveiller parce que, écoute, les détaillants en alimentation, là, Métro et d'autres, là, ils vont devoir à un moment livrer leur main.
Non seulement Saint-Hubert n'appartient plus à des Québécois, mais le poulet Saint-Hubert, ça sera pas du poulet du Québec.
Non.
Sacrifice. Écoute, je veux attirer l'attention des gens là, sur le texte de Daniel Germain aussi aujourd'hui dans section argent. La difficile gestion du cannabis dans les condos. N'importe qui habite dans un complexe de condos, vous le savez, il y a toutes sortes de cristis de règlement. Tu as le droit de fumer du pot. Tu sais que tu as le droit de fumer du pot sur ton balcon chez vous. Les voisins se plaignent. Puis pourtant, c'est un produit légal. Donc, un texte assez rigolo. Et demain, on peut s'attendre à quoi dans la section argent?
Richard, demain, dans la section argent, j'ai quelque chose de vraiment incroyable. C'est la fièvre des séries. Le Canadien soulève les passions. Et les jeunes vedettes Nick Suzuki et Cole Caulfield, là, sont vraiment les vedettes de l'heure. Mais le succès du CH profite à un entrepreneur tailleur d'habits de Sherbrooke.
Hein?
Qui habille les deux joueurs du Canadien, mais il habille aussi plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey.
Mais là, tu parles pas d'uniforme là, de hockey.
Non,
là.
Les habits, là.
En civil, là.
Oui, en civil, les beaux habits. Écoute, puis c'est eux autres, c'est lui qui habille aussi Dominique Ducharme. Donc, Entrevue intéressante avec cette boutique-là de Glorious à Sherbrooke qui fait des habits pour toutes les certains joueurs du hockey. Et c'est devenu une espèce de... Cet habit-là est gagnant parce que Suzuki a porté tel habit, puis ça, ça y a rapporté ce but-là, etc. Beaucoup de superstitions.
Okay.
Michel Gérard revient évidemment sur toute la question de la sortie de Legault sur la pénurie de main-d'œuvre. Et Michel Gérard a trouvé des chiffres inquiétants du mois de mars. Il y a encore plus de postes vacants au Québec qu'on ne pensait.
On pense.
Oui.
Et donc, c'est un sacré problème.
Ça, c'est vraiment un enjeu qui pourrait nuire à la relance économique du Québec. Donc, Michel Gérard revient là-dessus. Et en terminant, on revient sur les constats inquiétants du recul du français. On en parle dans le marché du travail, dans le domaine du commerce, etc. Mais dans les universités, c'est le cas. Et il y a des étudiants qui sortent actuellement des HEC qui disent ça n'a pas de bon sens l'anglicisation qu'il y a au HEC actuellement pour le MBA et d'autres. L'école de Jacques Parizeau, qui est de plus en plus en anglais dans les cours, on vous en parle demain dans la session.
Simon, Jolin Barrette va lire ça avec intérêt. Merci beaucoup,
bon Yves. Week-end.
Salut, bon week-end.
Bon week-end.